Chapitre 29 à 31. Jacob chez Laban. À l'école de Dieu. Et Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Chapitre 29, verset 1. Ainsi que nous venons de le voir au chapitre 28, Jacob ne sait pas saisir le vrai caractère de Dieu. Il reçoit l'abondance de la grâce de Bethel avec un « si », expression d'un misérable marché pour du pain et des vêtements. Nous avons maintenant à suivre Jacob dans une succession non interrompue de marchés. Ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Galates 6, verset 7. Il est impossible d'échapper à cette loi. Et il faut que Dieu emploie des circonstances pour châtier et humilier son serviteur. Là est le secret de beaucoup de nos chagrins et de nos épreuves dans ce monde. Nos cœurs doivent être réellement brisés devant Dieu, et nous devons être dépouillés de nous-mêmes. Nul ne peut jouir réellement de Dieu, avoir une compréhension tant soit peu exacte du caractère de Dieu, avant d'en avoir fini avec le « moi ». Il faut que j'apprenne à connaître ce que vaut ma nature, quel est le vrai caractère de ce qu'il y a dans mon cœur, et pour m'amener à cette connaissance, le Seigneur emploie différents moyens, parfois douloureux. Combien souvent n'arrive-t-il pas que, comme dans le cas de Jacob, le Seigneur vienne tout près de nous et nous parle à l'oreille sans que nous discernions sa voix et sans que nous sachions prendre notre vraie place devant lui. L'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. Que ce lieu-ci est terrible. Jacob n'ayant pas reçu d'instruction de la vision de Bethel, il lui fallut une discipline de 30 années à une dure école. Le trompeur chez le trompeur. Il est remarquable de voir comment Jacob entre dans une atmosphère répondant parfaitement à sa constitution morale. Le faiseur de marché, Jacob, rencontre le faiseur de marché, Laban, et on les voit rivalisant de ruse et d'adresse pour se tromper l'un l'autre. De la part de Laban, ceci ne doit pas nous étonner, car Laban n'avait pas été à Bethel. Il n'avait pas vu le ciel ouvert, ni l'échelle qui touchait la terre et le ciel. Il n'avait pas entendu les promesses glorieuses de la bouche de l'Éternel, lui assurant la possession de la terre de Canaan et une innombrable postérité. Laban, l'homme du monde, n'a d'autres ressources que son esprit cupide, et il en use. Combien il est triste de voir Jacob, après tout ce qu'il a vu et entendu à Bethel, lutter avec un homme du monde, avec des armes semblables aux siennes, pour s'efforcer d'accumuler des biens. Hélas, il n'est pas rare de voir des enfants de Dieu oublier leur haute destinée et leur héritage céleste, au point de descendre dans l'arène avec les hommes de ce monde, et là, lutter avec eux pour les richesses et les honneurs. Il arrive même qu'on ait peine à discerner chez eux quelques traces de cette foi dont l'apôtre Jean dit qu'elle a vaincu le monde. 1 Jean 5, verset 4. En considérant Jacob et Laban, au point de vue extérieur, il serait difficile de découvrir une différence entre eux. Il y en avait une cependant, et elle était bien connue de Dieu. L'un d'eux était l'objet de la souveraine grâce de Dieu, et en lui habitait, malgré tout, la foi. Toute la peine de Jacob et tout son travail, ainsi que son misérable marché du chapitre précédent, sont le résultat de son ignorance de la grâce et de son incapacité à se confier entièrement en la promesse de Dieu. Celui qui, après avoir reçu de Dieu la promesse sans réserve qu'il lui donnerait la terre de Canaan, pouvait dire « Si Dieu me donne du pain à manger et un vêtement pour me vêtir », ne devait avoir qu'une bien faible idée de Dieu et de ce qu'était sa promesse. Aussi le voyons-nous déployer tous ses efforts pour mener ses affaires de la manière la plus avantageuse pour lui. Il en est toujours ainsi quand la grâce n'est pas comprise. La profession que nous pouvons faire des principes de la grâce peut être au-dessus de l'expérience que nous avons de la puissance de la grâce. Quelle différence entre la révélation de Dieu à Bethel et la conduite de Jacob à Charan. Cependant, celle-ci n'était que l'expression de la compréhension qu'il avait de la première. Le caractère et la conduite d'un homme sont la mesure réelle de l'expérience et de la conviction de son âme, quelle que soit la profession qu'il fasse par ailleurs. Jacob n'avait pas encore été amené à se voir tel qu'il était devant Dieu. Par conséquent, il ignorait ce que c'était que la grâce. Et il montra son ignorance en se mesurant avec Laban et en adoptant ses principes et ses manières de faire. C'est certainement parce qu'il n'avait pas appris à connaître et à juger devant Dieu le caractère de sa chair que Jacob fut conduit par la providence de Dieu dans un milieu spécialement propre à manifester ce caractère dans ses traits les plus saillants. Il fut conduit à Charan, le pays de Laban et de Rebecca, à l'école même d'où les principes qu'il mettait si habilement en pratique étaient sortis, et où ils étaient enseignés et appliqués. Pour savoir ce que Dieu est, il fallait aller à Bethel. Pour savoir ce qu'était l'homme, il fallait aller à Charan. Or Jacob, n'ayant pas pu saisir la révélation que Dieu lui avait faite de lui-même à Bethel, il dut aller à Charan pour que ce qu'il était soit manifesté. Et là, que d'efforts pour réussir, que de subterfuges, que de ruses, que d'artifices. Point de confiance en Dieu, point de simplicité ni de patience de foi. Dieu est avec Jacob, c'est vrai, car rien ne peut empêcher la grâce de resplendir. Et sans doute, en quelque mesure, Jacob reconnaît la présence et la fidélité de Dieu. Cependant, il ne sait rien faire, sans plan et sans projet. Il ne peut pas laisser à Dieu le soin de décider pour lui ce qui regarde ses femmes et ses gages. Il essaie de tout arranger par sa ruse et ses artifices. Au lieu de laisser à Dieu le soin de multiplier les brebis marquetées et tachetées, ainsi qu'il l'aurait certainement fait si Jacob s'était confié en lui, il se sert, pour arriver à ses fins, d'un moyen que seul l'esprit d'un Jacob pouvait imaginer. Et à la fin des 20 années de son séjour chez Laban, Jacob trompa Laban, l'araméen, car il ne lui apprit pas qu'il s'enfuyait. Chapitre 31, verset 20. La connaissance de la grâce et la connaissance de nous-mêmes. Or, en suivant Jacob d'une période à l'autre de son histoire, nous pouvons contempler les merveilles de la grâce de Dieu. Oui, la grâce vient à nous dans notre plus bas état. Elle prend l'homme tel qu'il est et agit envers lui dans la pleine connaissance de ce qu'il est. Il est de la plus haute importance de bien comprendre ce caractère de la grâce. C'est ce qui nous met en état de supporter les découvertes subséquentes que nous faisons de notre propre indignité. Ces découvertes qui, si souvent, ébranlent la confiance et troublent la paix des enfants de Dieu. Beaucoup de personnes ne comprennent pas d'emblée la ruine complète de la nature humaine telle qu'elle apparaît à la lumière de la présence de Dieu, bien que leur cœur ait été réellement attiré par la grâce et que leur conscience ait été tranquillisée en quelque mesure par la connaissance de l'œuvre de Christ. Il en résulte que, à mesure qu'elles avancent dans la vie chrétienne et qu'elles font des découvertes plus profondes du mal qui est en elles, la connaissance de la grâce de Dieu et de la valeur du sang de Christ leur faisant défaut, elles doutent qu'elles soient réellement des enfants de Dieu. Ainsi détachées de Christ et rejetées sur elles-mêmes, elles ont recours aux ordonnances pour maintenir le ton de leur piété, ou bien elle retombe dans un état complet de mondanité. Tel est le sort de celui dont le cœur n'a pas été affermi par la grâce. Hébreux 13, verset 9. Nous ne pouvons lire ces chapitres de la Genèse sans être frappés de la grâce merveilleuse qui a pu s'intéresser à un être tel que Jacob après avoir découvert tout ce qui était en lui. C'est la même grâce qui, plus tard, dira de ses descendants: il n'a pas aperçu d'iniquité en Jacob, ni n'a vu d'injustice en Israël. Nombre 23, verset 21.